vous allez avoir une bonne vie quand le Christ est votre fondement et que vos choix sont fondés sur la parole de Dieu. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
Restez avec nous quand jouissez de votre vie.
Eh bien, le droit de choisir est vraiment un privilège extraordinaire. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Avec chaque privilège vient une responsabilité. Parfois, on s'enthousiasme pour un privilège, mais on ne s'enthousiasme pas autant pour la responsabilité inhérente au privilège. Nous devons comprendre que chaque choix que nous faisons est une graine que nous semons, et que chaque graine que nous semons apporte une récolte dans notre vie. Beaucoup de gens n'aiment pas leur vie comme elle est aujourd'hui, mais cela est dû au choix qu'ils avaient fait à un moment déterminé. Il y a des moments, surtout dans notre enfance, où les personnes qui exercent une autorité sur nous peuvent prendre des décisions qui auront une influence négative sur notre vie. Mais quand nous en sommes au point où nous prenons nos propres décisions, nous pouvons prendre des décisions qui l'emportent sur l'influence négative des mauvaises décisions que quelqu'un d'autre a prises pour nous. Qui comprend ça? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu un bon début dans la vie, ni parce que vous avez grandi dans une maison dysfonctionnelle, ni parce que vos parents ne vous ont pas bien traité, ou qu'ils ont abusé de vous, ou toute autre sorte de choses perverses, que vous n'allez pas pouvoir avoir une bonne vie. Mais vous n'allez pas avoir la bonne vie parce que... Vous n'allez même pas avoir une bonne vie simplement parce que vous croyez en Jésus comme votre sauveur. Vous allez avoir une bonne vie quand le Christ est votre fondement et que vos choix sont fondés sur la parole de Dieu. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Si tu m'obéis, tu seras béni, sinon tu vas vivre sous la malédiction. C'est très simple. Et pourtant, à cause des tendances charnelles de l'homme, beaucoup de fois nous luttons contre ce qui est dans notre intérêt et nous nous engageons dans ce qui va nous détruire. Je vais le dire de nouveau. Dans la chair, nous luttons contre ce qui est dans notre intérêt et nous nous engageons dans ce qui va nous détruire. Folie. Et ce matin, nous parlons en fait de choisir la sagesse au lieu de la folie, car dans chaque décision, il y a une manière sage et une manière stupide de s'y prendre. Il y a une manière sage et une manière insensée de parler. Il y a une manière sage de vous comporter dans les relations et il y a une manière insensée de vous comporter dans les relations. Nous devons commencer à faire ce qui est sage au lieu de ce qui est insensé. Je ne vais pas vous demander d'ouvrir toutes ces écritures, mais je vous encourage à lire les proverbes régulièrement. Parfois juste comme une discipline. Je n'y arrive pas tous les jours, mais j'essaye de lire au moins un proverbe par jour. Car il y a tellement de sagesse précieuse dans chaque chapitre de Proverbes. Par exemple, Proverbe 2 dit que Dieu garde la voie de ses saints à travers la sagesse. Cela veut dire que quand nous marchons dans la sagesse, nous sommes protégés et Dieu nous délivrera de la voie du mal. Il accompagne tous nos pas quand nous marchons dans la sagesse. Nous sommes à l'abri du mal quand nous marchons dans la sagesse. La Bible dit que nous devons implorer la sagesse. Implorer la sagesse. Oh Dieu, je veux marcher dans la sagesse. En fait, la Bible dit dans 1 Corinthiens que Jésus a été fait pour nous sagesse. Par conséquent, la sagesse est en nous. Donc nous n'avons pas besoin d'implorer la sagesse. Ce n'est vraiment pas la prière qu'il faut. Nous devons plutôt prier pour procéder selon la sagesse qui est en nous. Parfois, nous essayons d'obtenir une chose que nous avons déjà. Si vous êtes des chrétiens régénérés, la sagesse est en vous. Car l'esprit de sagesse est à l'intérieur de vous. C'est pourquoi quand nous devons prendre une décision, nous ressentons deux choses différentes. Notre chair veut s'y prendre d'une manière, mais la sagesse implore. Oh, ne faites pas ça. Ce que nous devons apprendre à faire, c'est choisir la sagesse et ne pas suivre la folie. Une autre façon de le dire, c'est marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair s'oppose à l'esprit, l'esprit s'oppose à la chair. Ils sont continuellement opposés entre eux. Choix. Il se peut que vous sortiez d'ici et que vous soyez dans une longue file de voitures, essayant de sortir du parking, et votre chair va être provoquée. Laissez-moi passer. Vous avez deux choix. Vous pouvez suivre votre chair ou vous pouvez faire ce que la Bible dit, c'est-à-dire vous calmer, être gentil et savoir que vos pas sont affermis par le Seigneur. Et vous pouvez même dire une chose comme « Dieu, je préfère ne pas attendre ici. Mais si je dois attendre ici 5 minutes, peut-être que tu me fais attendre parce que si je quitte quand je le veux, j'aurai peut-être un accident. Mais qu'en restant ici, tu m'épargnes cet accident. » Si nous pouvons nous fier à Dieu en toutes choses, nous pourrons croire que même quand les choses ne marchent pas vraiment comme nous le voulons, elles marchent tout de même comme il faut. Savez-vous que bien que les choses ne marchent pas comme vous le voulez, elles marchent tout de même comme il faut beaucoup de fois? Il y a toujours deux façons différentes de réagir aux circonstances et aux situations. Deux façons différentes de parler. Nous pouvons parler positivement ou parler négativement. Si je demandais à n'importe quel chrétien présent ici quelle est la manière sage, il dirait la positive. Pourtant, combien de fois choisissons-nous la façon insensée de parler à cause de nos émotions? Amen. Donc, Dieu nous donne le droit de faire un choix libre. Je mets devant toi la vie et la mort, à toi de choisir. Parfois, nous pensons, « Ah, si seulement Dieu ne m'avait pas donné le choix. Si seulement je n'avais même pas à faire face à ces choix. Si seulement Dieu m'avait créé complètement bon et ne voulant que le bien. Mais il ne voulait pas une bande de robots programmés à faire une chose. Il voulait des gens qui choisiraient le bien de leur plein gré. C'est pourquoi il a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de l'arbre de la vie, mais pas de celui-là. Depuis Adam, chaque personne a eu le même choix à faire. Et nous devons faire face au fait que chaque choix que nous faisons est une graine que nous semons, et chaque graine que nous semons apporte une récolte dans notre vie. Maintenant, je vais vous dire c'est quoi la sagesse. Vous n'allez pas trouver cette définition dans la Bible ou dans un dictionnaire. Mais c'est ce que Dieu m'a mis dans le cœur et c'est ma façon la plus facile de la comprendre. Donc j'espère qu'elle va vous aider. Je crois que la sagesse, c'est de choisir maintenant ce qui va vous rendre heureux plus tard. Très simple, mais très fort. La sagesse, c'est de choisir maintenant ce qui va vous rendre heureux plus tard. C'est-à-dire, vous n'allez pas le regretter plus tard. Si seulement je n'avais pas dit ça, ou je n'avais pas fait ça, ou je n'avais pas acheté ça, ou je n'avais pas fait ça de cette façon, ou je n'avais pas quitté mon travail dans un accès de colère. Si seulement je n'avais pas acheté cette chose sur un coup de tête et maintenant je dois effectuer des paiements pour 5 ans. Si seulement j'avais, si seulement je n'avais pas. Proverbe 4:8 dit « Apprécie hautement la sagesse et exalte-la et elle t'exaltera et t'élèvera. Elle fera ta gloire quand tu l'embrasses. » Alléluia. Proverbe 4 dit, « Quand tu marches, ton pas ne sera point handicapé si tu suis la sagesse. Quand tu marches, ton pas ne sera point handicapé. Ton passage sera libre et ouvert. Et quand tu cours, tu ne trébucheras point. » Cela veut dire que si vous marchez dans la sagesse, les choses vont se produire plus vite dans votre vie. Vous n'allez pas vous traîner dans la boue quelque part, mais vous allez courir avec Dieu et vous allez voir un revirement plus rapide dans votre vie. Vous allez voir une récolte plus rapide des bonnes graines que vous avez semées. Si nous voulons voir de bonnes choses se produire dans notre vie, nous devons procéder avec plus de sagesse. Parfois, nous nous y perdons parce que, d'accord, disons par exemple que vous payez régulièrement la dîme et vous donnez des offrandes, et chaque fois qu'un plateau de quête vient devant vous, vous donnez généreusement. Eh bien, c'est super. Mais peut-être que vous dites, « Mais je ne prospère toujours pas comme la Bible dit que je le dois. » Eh bien, vous savez quoi? Vous pouvez prendre un principe et le suivre à lui seul avec diligence. Mais si vous faites 25 autres choses mal... Ce n'est pas parce que vous vous pointez à l'église tous les dimanches matins que vous prenez des bons points au ciel. Ce dont il s'agit, c'est est-ce que nous pratiquons à huis clos ce que nous apprenons le dimanche matin? Voilà la grande question. Est-ce que je rentre chez moi et je mets ces choses en pratique? Ne vous bornez pas à écouter la parole en vous trompant vous-même, mais mettez-la en pratique. Celui qui met la parole en pratique est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le rocher. Celui qui ne met pas la parole en pratique est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le sable. Vous connaissez ces choses. Amen. Il a fallu que vous fassiez un petit effort pour venir ici, mais tout ce que vous avez à faire, c'est vous asseoir là. C'est moi qui fais tout le travail. J'ai payé la location du bâtiment. Vous savez, nous avons payé la sonorisation et l'éclairage. Et Dieu nous a donné l'argent, mais vous comprenez ce que je dis. Donc vous avez fait un très petit effort. Et certains ne donnent même pas une offrande. Vous vous asseyez simplement. D'accord. Je te défie de me bénir. Quand allons-nous être responsables? Quand allons-nous surmonter cette mentalité qui dit que tout le monde doit s'occuper de moi et faire les choses à ma place? Amen. Il ne faut pas un effort pour écouter, mais un effort pour rentrer chez nous et faire ce qui est juste. Je suis très heureuse de consacrer ma vie pour la prédication de l'Évangile. Et je serais malheureuse si je ne le faisais pas. Je suis très reconnaissante d'être là et heureuse d'être là. Mais savez-vous ce qui me rend vraiment heureuse? Quand je vois que les gens, au lieu de se borner à écouter, deviennent des pratiquants de la parole de Dieu. C'est ce qui va demander un effort. Quand vous mettez en pratique la parole, vous allez avoir à faire un effort, car mon effort ne va pas faire de vous un auteur de l'action. C'est une décision que vous devez prendre. Recherchez la sagesse comme vous recherchez les choses. Recherchez la sagesse comme vous recherchez l'argent et l'or. Peut-être que vous faites quelque chose de bien dans un domaine. Mais il s'agit de beaucoup de domaines dans votre vie. Il ne s'agit pas d'un seul choix, il s'agit de beaucoup de choix. En fait, nous choisissons de recevoir Jésus comme notre sauveur et nous prions une prière et nous lui demandons de venir dans notre vie. Mais nous avons à commencer une marche et cette marche implique plusieurs pas. Pas après pas, après pas, après pas, après pas. Toute notre vie, nous allons faire des choix. Je vais le dire de nouveau. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives toi et tes descendants. Proverbe 6. Verset 16 dit, « Il y a six choses que Dieu hait, et même sept qu'il a en horreur. » Maintenant, combien de vous pensent que si nous aimons Dieu, et que nous savons que Dieu est Dieu, et nous savons qu'il est puissant, et que s'il dit, « Maintenant, regarde, cette chose est une abomination pour moi. » Qui pense qu'on devrait être assez intelligent pour nous éloigner d'une abomination? Mais le faisons-nous? Non. Jetons-y un coup d'œil. Proverbe 6, verset 16. Il y a six choses que Dieu hait, et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, l'esprit qui fait que quelqu'un se surestime et sous-estime les autres. Eh bien, c'est un sermon. La langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Vous pouvez même dire là, les gens qui font du mal aux autres. Car nous pensons à répandre le sang et nous pensons, eh bien, je n'ai tué personne, mais je pense que c'est dans un sens beaucoup plus large que ça. J'ai découvert dans ma marche avec Dieu, voulez-vous savoir ce qui, à mon avis, nous cause des problèmes plus que tout? La façon avec laquelle nous traitons les gens. Je ne pense pas qu'il y ait une chose plus offensante à Dieu que lorsque nous maltraitons les autres, lorsque nous pensons que nous sommes meilleurs qu'eux, et nous leur parlons d'une façon désagréable, et nous nous fichons de leurs besoins, et nous n'avons pas de compassion pour eux, et il ne s'agit que de nous. Si vous voulez avoir une onction dans votre vie, il vaut mieux apprendre à marcher dans la charité, car vous n'allez pas être capable de recevoir l'onction du Saint-Esprit dans votre vie, et moi non plus, si nous ne poursuivons pas, poursuivre agressivement une puissante marche dans la charité. Peu importe combien d'écritures vous pouvez citer, vous pouvez mémoriser toute la Bible, et si vous ne marchez pas dans la charité, si vous avez toute la foi jusqu'à transporter des montagnes et vous n'avez pas de charité, vous n'êtes qu'une cymbale qui retentit. Les mains qui répandent le sang innocent, qui font du mal aux gens. Verset 18. Le cœur qui médite des pensées et des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges, même sous serment. Et voilà que vient le numéro 7 maintenant. Une chose que Dieu a en horreur. Et celui qui suscite des querelles entre frères. Maintenant, il y a plusieurs églises représentées là. Dites-moi maintenant, y a-t-il discorde dans votre église? Y a-t-il conflit? Y a-t-il ragot? Y a-t-il rapportage? Y a-t-il jugement? Y a-t-il critique des dirigeants? Est-ce qu'il arrive des fois que vous déjeuniez avec un groupe de personnes chrétiennes et personne à table ne parle défavorablement de quelqu'un d'autre? Ah oui, je prêche maintenant, n'est-ce pas? Alléluia! Eh bien, si je sais que c'est une abomination pour Dieu que de semer la discorde, il serait alors absurde que je le fasse. Pourtant, l'Église, dans son ensemble, dans le monde entier, est pleine de ceux qui sèment la discorde, les conflits, les ragots, le désaccord, le rapportage, les critiques, la médisance. Ils ne sont pas bénis et passent normalement leur vie à s'apitoyer sur eux-mêmes et à blâmer le diable. Savez-vous que le fait d'être une personne pleine de conflits peut détruire votre vie? La Bible dit « Un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller ». Il doit être gentil et sensible. Une abomination. Six choses que hait le Seigneur, mais la septième est une abomination. Proverbe 4 dit, « Garde ton cœur en toute vigilance, car de lui viennent les sources de la vie. » Mais combien de fois traînons-nous et écoutons-nous des absurdités? Je ne veux pas que vous écoutiez ça avec vos oreilles. Je veux que ça atteigne les tréfonds de vous-même. Choisissez la sagesse et non pas la folie. Chaque décision que nous prenons est une graine que nous semons. Chaque graine que nous semons est une récolte que nous moissonnerons. Même pour ce qui est d'écouter les ragots, gardez votre cœur. Quand quelqu'un vous dit une chose désagréable sur quelqu'un d'autre, cela affecte votre opinion de cette personne. Ce qui est dit peut même ne pas être vrai, mais ça va affecter votre opinion. La Bible dit que c'est seulement sur la déposition de deux ou trois témoins que nous devons croire une chose. Il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, mais quand quelqu'un me raconte quelque chose maintenant, je lui dis « je ne vais pas l'écouter ». Je ne vais pas le croire. Parfois, je dois dire à haute voix « je choisis de ne pas le croire ». Maintenant, si je l'entends de deux ou trois personnes dignes de confiance, et ça demande une chose qui m'implique, je dois prendre une décision. À ce moment-là, ce serait évidemment insensé de ne pas écouter de bons conseils. Mais nous ne devons pas écouter les commérages, et surtout, nous ne devons pas prêter l'oreille à des commères. En d'autres termes, il y a certaines personnes qui sont des commères et qui ont toujours un racontard à vous raconter sur quelqu'un ou quelque chose, et ce sont les personnes avec lesquelles vous ne devez pas avoir une relation. Eh bien, je sais que je ne dois pas prêter l'oreille à ces trucs, mais je ne veux pas les blesser. Ils tuent votre vie spirituelle. Gardez votre cœur en toute vigilance, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 8 dit, la richesse et la gloire viennent à travers la sagesse. Proverbe 19:3, la folie de l'homme pervertit sa voix. En d'autres termes, c'est la propre folie de l'homme qui ruine sa vie. Donc, nous avons jeté un petit fondement maintenant sur l'importance de choisir la sagesse, de ne pas être insensé et de lire la parole et la mettre en pratique. Tout le livre est un livre de sagesse, c'est ce qu'il est. En fait, c'est l'esprit de sagesse qui a composé tout ce livre. Maintenant, nous allons parler d'une chose très insensée, que nous avons tous tendance à faire et qui est « nous ignorons les avertissements ». Nous les ignorons. Je crois que ça va être très intéressant pour vous. Tout d'abord, parlons un tout petit peu de la folie, de l'adultère et de la fornication. Maintenant, nous allons vraiment être en mauvaise posture, n'est-ce pas? Pensez bien, ceci va à des millions de personnes à travers la télé. Maintenant, nous y voilà. Je suis en plein dans un sujet tabou qui va me créer des ennuis. car de nos jours, il est très en vogue de vivre ensemble. Avant de se marier, essayez la marchandise pour voir si nous allons l'aimer. Avant de nous engager. Maintenant, je ne veux pas être impoli ou blesser qui que ce soit. Je vous prie de ne pas éteindre la télé parce que j'établis votre culpabilité. Et ne vous levez pas maintenant pour quitter le bâtiment si... Vous avez certains de ces problèmes dans votre vie. Vous savez, les gens disent, eh bien, j'aime vraiment Dieu. Et Dieu comprend. Non, Dieu comprend ce qu'il a écrit dans la Bible. Voilà ce que Dieu comprend. Nous devons arrêter d'édulcorer la parole de Dieu pour qu'elle se prête à ce que nous voulons faire dans la vie. Eh bien, vous savez, je peux faire ça et être chrétien. Il y a une différence entre dire « Eh bien, je crois en Jésus » qui pourrait être un assentiment mental. Nous parlons de la croyance, d'une chose dans laquelle vous croyez assez pour y engager votre vie. Nous parlons d'une chose dans laquelle vous croyez assez pour y engager votre style de vie. En fait, je leur ai donné une diapo pour passer au rétroprojecteur la veille et je n'ai pas eu le temps de le faire. Si vous pouvez la trouver, vous pouvez la projeter. Sinon, je vais juste vous la citer. Beaucoup de gens veulent que leur vie soit changée, mais pas leur style de vie. N'est-ce pas vrai? Beaucoup de gens veulent que leur vie soit changée, mais pas leur style de vie. Nous voulons continuer à faire ce que nous avons toujours fait et avoir de bons résultats, et ça ne va pas marcher. Donc, nous devons parler de ces choses à partir de la chair. Si nous ne le faisons pas, nous serons responsables. Dieu a dit à Jérémie, « Si tu ne dis pas ce que je te demande de dire, leur sang sera sur tes bras. » Alors quand je lis ça, je dois avoir une crainte et un tremblement révérentiel dans ma vie, que si je me tiens ici sans dire ce que Dieu me demande de dire, simplement pour que je sois populaire avec les gens, car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. C'est pour cela que nous avons tellement de gens qui sont croisièrematiques de nos jours. Ils font des croisières d'une église à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Pas d'engagement. Personne ne veut s'engager nulle part. Oh oh. Eh bien, Dieu soit loué. Je veux juste me lever et voir comment je vais être guidé les dimanches matins. Jetons un coup d'œil à Proverbe 6, 32. Maintenant, cela parle de l'homme qui commet l'adultère. Mais en fait, c'est soit un homme, soit une femme, nous le savons. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de cœur et de sens, principe moral et prudence. Celui qui le fait ruine sa vie. Ah hein. J'ai la responsabilité de dire aux gens, qu'ils veuillent l'entendre ou non, que c'est insensé. Vous savez, la chose qui m'inquiète, c'est que les gens vous disent tout le temps, je demande aux gens tout le temps, êtes-vous mariés? Oh non, nous vivons ensemble. C'est comme s'il n'y avait plus aucun facteur de honte à ce propos. Il n'y a plus d'embarras, il n'y a plus rien. C'est comme, oh oui, nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, n'importe. Une fois de plus, il ne s'agit pas de condamnation, mais vous ruinez votre vie. Eh bien, nous avons le choix d'être soit sages, soit insensés. Chaque jour, nous faisons des choix. Et au cours de quelques semaines ou de quelques mois, nous pouvons dire à coup sûr que nous faisons des milliers et des milliers de choix. La Bible nous dit que si nous faisons les bons choix, nous serons bénis. Mais si nous faisons les mauvais choix, nous vivrons sous la malédiction. Donc, nous devons vraiment choisir la sagesse au lieu de la folie. Je vous encourage à faire les bons choix. Faites maintenant ce qui vous donnera la satisfaction plus tard. Ne faites pas ce que font tous les autres. Si vous n'avez pas de paix, ne le faites pas. Nous devons faire de bons choix pour que nos vies soient ce que Jésus est mort pour nous donner.
Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.